Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le jeudi 8 août 2019, à la une de l'actualité ce soir. Au Togo, l'opposition qualifie de liberticide une nouvelle loi qui restreint les manifestations publiques. Le gouvernement invoque des raisons de sécurité. Au Burkina, les avocats du général Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, plaident son acquittement.
Dans ce putsch, même s'il n'est pas auteur, il est au moins complice. À l'époque, tout le monde sait que c'est Diendéré.
Au Soudan, enquête sur des disparus dans la dispersion meurtrière d'un sit-in. Aux États-Unis, plusieurs centaines de travailleurs hispaniques arrêtés dans le cadre d'une importante opération policière contre l'immigration clandestine. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans 10 minutes environ. En République démocratique du Congo, au moins 6 personnes ont été tuées par balles et par machette la nuit dernière dans la commune de Mbo à Beni. 2 femmes et 3 enfants sont également portés disparus. Des habitants de la ville de Beni ont manifesté aujourd'hui pour protester contre les attaques et tueries de civils quasi quotidiennes dans la région. Une nouvelle législation fait polémique au Togo. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui restreint la liberté de manifestation publique, officiellement pour des raisons de sécurité. Ekia Badou.
Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11h et au-delà de 18h, souligne la nouvelle loi qui modifie un précédent texte datant de 2011. Selon le ministre de l'administration territoriale, Payadoya Boukpessi, la modification s'est imposée dans un contexte nouveau marqué par des menaces terroristes dans la sous-région et aux portes du pays. La loi restreint également les lieux publics où peuvent être organisés des manifestations. Aussi, le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité qui doivent l'encadrer. Selon l'opposant Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, ces mesures sont liberticides. Le gouvernement redoute les colères du peuple. Le Togo a été secoué par une grave crise politique entre 2017 et 2018 avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues et le pays doit tenir de nouvelles élections le 15 avril 2020.
Au Mali, le syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako a entamé hier une grève de 72 heures. Les agents de santé réclament de meilleures conditions de travail. Pourtant, l'année dernière, après 38 jours de grève, la plateforme des syndicats de la santé du Mali avait conclu un accord avec le gouvernement. Modibo Dembélé a joint Jimmy Keita, secrétaire général du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré.
3 jours de grève pour résoudre un certain nombre de problèmes inimaginables dans un CHU comme l'hôpital Gabriel Touré. Aujourd'hui, dans cet hôpital, tout manque. Les simples alcool, les gants, même du simple papier pour prescrire les ordonnances manquent. Ni que cette grève où les autorités ont quand même essayé d'apporter quelques papiers. Il y a aussi un sérieux problème. L'hôpital Gabriel Touré a été privé de son budget de fonctionnement. Ce budget qui était de 1 milliard en 2013 a été ramené jusqu'à 200 millions. Et avec 100 millions, on ne peut pas faire un CHU, il ne faut pas se leurrer. Le dernier rapport du vérificateur dit que l'hôpital Gabriel Touré ne dispose pas d'un plateau technique assurant une prise en charge efficace des patients. Et le département surtout de la pédiatrie qui souffre de manque criable de personnel et de plateau technique adéquat. Avec le bloc coopératoire qui ne fonctionne pas, l'ORL qui ne peut même plus faire une extraction de corps étrangers. La pédiatrie, il y a souvent 2 infirmières pour 40 enfants, alors que la norme est de 2 infirmières pour 3 enfants. Nous nous disons que c'est impossible. Il faut vraiment recruter du personnel qualifié. Il faut doter l'hôpital d'un budget conséquent.
Et pour sa part, le docteur Mama Koumaré, secrétaire général du ministère malien de la Santé, indique que sur les 10 points de revendication du syndicat, 6 font l'objet d'accord avec le gouvernement et 4 sont en désaccord total ou partiel. Au Soudan, des procédures judiciaires ont été ouvertes sur la disparition de 11 personnes lors de la répression meurtrière en juin dernier d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Le point avec Yacouba Ouédraougou.
Le nombre de personnes disparues lors du sit-in dans le cas a été documenté et pour lesquelles des procédures judiciaires ont été ouvertes est de 11, a déclaré Shawki Yacoub, un avocat de l'Association des professionnels soudanais. Il a ajouté que d'autres personnes pourraient avoir disparu dans la répression du sit-in. Selon un comité de médecins proches du mouvement de contestation, au moins 127 personnes sont mortes le 3 juin pendant la dispersion musclée d'un rassemblement devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Une enquête officielle a conclu fin juillet à l'implication de 8 paramilitaires des forces de soutien rapide, aussi accusés de crimes au Darfour. Plus de 250 personnes sont mortes depuis le début des manifestations en décembre. Après des mois de pourparlers entre les meneurs de la contestation et le conseil militaire, les deux parties ont finalisé samedi un accord sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans.
Au Nigeria, la Haute Cour fédérale d'Abuja a autorisé aujourd'hui la poursuite pour 45 jours et sans procès de la détention de l'activiste Omoyole Sowore, l'opposant candidat malheureux à la présidentielle de février dernier contre le président Muhammadu Buhari, a été arrêté pour avoir appelé à la révolution. Une vidéo a été présentée à la Cour aujourd'hui montrant Omoyole Sowore en réunion avec le dirigeant séparatiste pro-Biafra Nnamdi Kanu où les deux hommes parlent de courtiser un groupe contestataire chiite pour soutenir la révolution contre le pouvoir en place. La Cour constitutionnelle du Malawi examine à partir d'aujourd'hui un recours déposé par l'opposition afin d'obtenir l'annulation pour fraude de la présidentielle du 21 mai, remportée par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Son rival Lazarus Chakwera revendique la victoire pour laquelle il lui a manqué 159 000 voix d'après les résultats officiels. Il a dénoncé ce qu'il appelle une arnaque. En Algérie, c'est fait. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, annonce sa candidature à la présidentielle du 15 septembre prochain, un jour avant la clôture des inscriptions. C'est l'instance chargée des élections valide sa candidature. Cet ingénieur agronome de 43 ans participera à sa première élection. Par cette candidature, Youssef Chahed dit vouloir rompre avec l'ancien système et donner l'espoir à tous les Tunisiens, notamment les jeunes. Il a été nommé Premier ministre en 2016 par le président tunisien, aujourd'hui décédé, Béji Caïd Essebsi. Aux Comores, dégradation de l'état de santé de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, emprisonné depuis plus d'un an. Son avocat indique aujourd'hui qu'il doit être évacué dans un pays tiers pour des soins appropriés. Le parquet a réquisitionné 2 médecins pour aller l'examiner et donner leur avis. Placé en résidence surveillée en mai 2018 pour trouble à l'ordre public, l'ex-chef de l'état et leader du parti d'opposition Djouba a été écroué 3 mois plus tard pour corruption et détournement de biens publics dans un scandale de vente de passeports comoriens à des apatrides du Golfe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la police migratoire traquant les clandestins a arrêté hier près de 700 migrants sans papier. Il s'agissait d'employés du secteur agroalimentaire dans l'État du Mississippi. Eric Manerakiza.
Il s'agit de l'opération la plus importante ciblant en un jour un État depuis au moins une décennie, selon les autorités. La rafle a visé notamment des usines du secteur avicole. Certains adultes menottés ont été placés en détention en vue de leur expulsion. D'autres ont été relâchés, d'autres convoqués à une audience judiciaire ultérieure et placés sous contrôle électronique. Aucune des entreprises agroalimentaires touchées n'a fait de commentaires dans l'immédiat. Ma principale préoccupation est qu'advient-il aux enfants ? S'est interrogé William Trulli, maire de Canton, une des villes théâtres de l'opération contre les immigrés clandestins. Les autorités ont assuré avoir pris en compte les situations familiales afin qu'aucun enfant ne se retrouve abandonné. Le démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, a dénoncé une pratique qui alimente, selon lui, la crainte par des rafles massives dans le Mississippi au lieu de réconforter une population dans la peine. Dénonçant une invasion, le président Donald Trump s'est récemment engagé à accélérer le processus d'expulsion de millions de migrants arrivés illégalement aux États-Unis.
En Amérique encore, plus de 200 maires du pays appellent le Sénat à adopter en urgence de nouvelles lois pour réguler le marché des armes après les fusillades meurtrières du week-end dernier. Le président Donald Trump a fait savoir hier qu'il était favorable à une disposition qui permettrait de confisquer les armes de personnes souffrant de troubles mentaux, mais d'après lui, il n'y a pas d'appétit politique à Washington pour des législations plus musclées comme celle adoptée par la Chambre ou l'interdiction des fusils d'assaut. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad a rejeté aujourd'hui un accord américano-turc en vue d'établir une zone de sécurité dans le nord du pays, une région contrôlée par les Kurdes qui ont réservé un accueil prudent à cette initiative. Et voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, résumé des nouvelles économiques sur le continent africain, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanik Talani.
Les bénéfices du groupe anglo-américain AngloGold Ashanti connaissent une hausse de 21% suite à la bonne performance de sa co-entreprise Kibali, à la baisse des coûts et au prix élevé de l'or qui ont permis de compenser la baisse de sa production en Afrique du Sud. Kibali, en République démocratique du Congo, est parmi ses mines les plus performantes et est co-détenue par AngloGold, Barrick Gold et la société minière de Kilomoto, une entreprise publique de la RDC. MTN Group a levé 2,1 milliards de randes provenant de la vente d'actifs dans le cadre d'un plan de désinvestissement annoncé en mars. Au premier semestre de cette année, MTN a vendu son prêt d'actionnaire ATC Ghana à American Tower Corp pour 900 millions de randes, ainsi que ses participations dans le fonds d'investissement Amadeus et le site de réservation Travelstat pour 1,2 milliard de randes. MTN veut se concentrer sur les marchés à forte croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique. Terminons cette minute éco avec l'Égypte où l'inflation annuelle des prix à la consommation en milieu urbain a diminué pour s'établir à 8,7% en juillet contre 9,4% en juin et contre 13,5% en juillet 2018 selon l'agence officielle de statistiques CAPMAS. C'est son plus bas niveau depuis près de 4 ans. C'est une bonne nouvelle pour les marchés car cela renforce l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt en août.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
La fédération marocaine somme le Raja de rapatrier Ben Malango.
Oui, le club congolais du tout-puissant Mazembe a démenti un quelconque accord avec un club pour un transfert de son joueur Ben Malango. L'avant-centre fait partie des 29 corbeaux inscrits en Ligue des Champions 2019-2020 avec son habituel dossard 28. Absent de Lubumbashi depuis la reprise, Ben Malango a été pris dans un traquenard d'agents de joueurs pour se retrouver à Casablanca au Maroc sur le point d'être enrôlé par le Raja Club Athlétique. Vérification faite auprès de la Fédération Congolaise de Football avant d'inscrire le joueur à la Fédération Royale Marocaine de Football. Il a été constaté que Ben Malango est bel et bien lié au tout-puissant Mazembe jusqu'en 2021. La Fédération Marocaine a alors sommé au Raja Casablanca de rapatrier Ben Malango auprès du club de Lubumbashi.
Transfert, Ismaïla Sarr quitte Rennes pour Watford.
L'ailier sénégalais de Rennes s'est engagé avec Watford pour les 5 prochaines saisons. Le transfert a été qualifié de record par les Hornets qui n'ont toutefois pas précisé le montant. Selon France Football, Watford a déboursé environ 35 millions d'euros pour attirer le joueur âgé de 21 ans. Vainqueur de la Coupe de France la saison passée, Ismaïla Sarr a disputé 77 matchs depuis son arrivée à Rennes en 2017, marquant au passage 18 buts. Avec le Sénégal, il a atteint la finale de la dernière CAN perdue face à l'Algérie. De son côté, l'Inter Milan a officialisé l'arrivée de l'attaquant international belge d'origine congolaise, Romelu Lukaku, en provenance de Manchester United à 26 ans. Il a signé un contrat de 5 ans. La presse italienne évoque un chiffre de 65 millions d'euros, plus 10 millions au moins de primes et bonus.
Et puis Yacouba, en basketball, le Mali se prépare pour l'Afro-Basket Dames.
Oui, la capitale sénégalaise Dakar accueille la crème féminine de la balle au panier du 10 au 18 août prochain. Le Mali partage la même poule que l'Angola et la République démocratique du Congo. Pour le coach malien, tout est mis en œuvre pour que son équipe rajeunie aille le plus loin possible dans le tournoi.
L'objectif, c'est d'aller en demi-finale. On a une équipe jeune. Il ne faut pas que la jeunesse soit un inconvénient. Il faut que la jeunesse soit un avantage. Simplement, dans ce format-là, l'expérience va compter aussi parce qu'il y a deux matchs de moins par rapport au dernier format de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut être tout de suite prêt et dans le vif du sujet. C'est là où on travaille beaucoup sur le mental de nos joueuses.
Sylvain Lautier, coach du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Sans plus tarder, gros plan sur quelques sujets d'actualité. Jacques Aristide toujours au micro. La Côte d'Ivoire pour démarrer. Le président Alassane Ouattara maintient le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Lors d'une interview télévisée à la veille de la fête de l'indépendance du pays, le chef de l'État ivoirien s'est contenté de dire qu'il ferait savoir sa décision l'année prochaine. Mais il n'a pas manqué d'ajouter que la Constitution lui permet de faire deux autres mandats. Le scrutin présidentiel cristallise déjà le débat politique à 14 mois de l'échéance. Écoutons quelques réactions d'Ivoiriens dans ce micro-trottoir réalisé par Aïcha Diarra à Boaké.
Mais si ça ne tenait qu'à moi, je souhaiterais qu'il y ait un troisième mandat pour pouvoir recadrer les choses. Puisque rien n'a été, et pour le moment, clair. Au niveau du gouvernement, au niveau de la population. Puisque je me suis dit que si aujourd'hui Alassane n'est pas au pouvoir, quel sera notre sort, nous, population lambda?
Il n'aura donné sa position, peut-être 2020 dépend de ça. Le président doit penser à unir les Ivoiriens, à faire de sorte à ce que les Ivoiriens puissent soigner cette plaie-là. Actuellement, tout le monde a la haine dans le cœur. Lui doit savoir ça.
Compte tenu de la situation, et je pense qu'il sera préférable qu'il se présente pour la bonne marche de l'économie qu'il a entamée et la stabilité qu'il a fait procurer au pays et que nous voyons vraiment le pays où tout est beau partout. Et vraiment, je pense qu'il faut la féliciter.
Sa position pour le moment, c'est tout à fait normal. Il faut toujours se réserver. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Sinon, nous sommes pour le troisième mandat. Parce que ça nous arrange. Il travaille pour le pays. Voilà. Si on fait vraiment l'état de tous les chefs d'État qui sont passés, nul n'a pu réaliser cet effort que Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire.
Sincèrement, je pense qu'il a déjà beaucoup fait. Et pour que la stabilité de ce pays reste comme on l'a déjà vu durant ces 10 ans-là, je préfère sincèrement qu'il laisse le pouvoir à une autre personne.
Pour ma part, pour un troisième mandat, c'est pas mauvais. Mais avec son âge, peut-être c'est de laisser peut-être à la nouvelle génération qui vient. Peut-être qu'il n'a pas fini, il va recadrer un peu les choses et puis bon, parti maintenant. Selon moi, en fait. Bon, pour le moment, il est un peu sceptique parce que on voit déjà un problème qui vient avec les deux opposants là. Peut-être c'est pour régler ça et puis maintenant se faufiler maintenant.
Moi, je pense que c'est la meilleure manière. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il a bien précisé, c'est en fonction de la nomenclature, c'est-à-dire la situation du pays, il va se décider. Le temps est un peu encore long. Donc, il faut se donner le temps de réfléchir encore pour voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Il a déjà fait 2 mandats, non ? N'a qu'à amener son pays. Pour qu'on puisse le respecter, quoi, passer à autre chose.
Voilà, ce qui me fait mal pour lui là, il a pris le pouvoir et puis il est âgé. Sinon, s'il avait 40 ans, 50 ans là, nous même on ne verrait qu'il n'a qu'à faire 80. Comme il est âgé, ça dépend de lui. S'il peut continuer, il n'a qu'à continuer, nous même on est derrière lui.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, l'affaire Diendéré revient sur le tapis. La défense du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué de septembre 2015, demande son acquittement au procès des putschistes présumés. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, les avocats du général Diendéré affirment que le parquet militaire n'a pas été capable d'apporter des preuves qui font de leur client l'auteur de tous les crimes qu'on lui impute. Au total, 84 accusés sont jugés depuis février de l'année dernière. Le putsch manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. De Ouagadougou, le compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré.
Le général Gilbert Diendéré n'est pas l'auteur du coup d'État de septembre 2015 au Burkina. C'est ce qu'ont annoncé ses avocats. Selon eux, jusqu'aujourd'hui, le parquet militaire n'a pas pu démontrer la culpabilité du général dans ce putsch. Maître Jean Degli, l'un des avocats de Diendéré.
Sur le plan des preuves qui doivent soutenir les accusations contre l'accusé, le parquet militaire
malgré tous les moyens d'État dont il a disposé et usé, a été radicalement incapable de prouver véritablement la culpabilité du général Diendéré au-delà de tout doute raisonnable, comme l'exigent les standards internationaux et nationaux d'un État de droit.
Et des principes du procès ont été violés, selon l'avocat.
Dans le procès du général Diendéré, en dehors du caractère public du procès, de la possibilité qui lui a été donnée d'être entendu par la juridiction de jugement, la plupart des principes élémentaires d'une justice équitable ont été malheureusement littéralement violés.
Pour l'un des avocats, le général n'a fait que sauver les meubles. Il pourrait y avoir pire que cela en 2015. Maître Paul Kéré.
Heureusement que le général Diendéré a pris les devants pour canaliser les jeunes. Sinon, à la date de ce jour, on serait peut-être engagé dans une guerre civile ou que ces jeunes-là seraient toujours aujourd'hui au pouvoir parce qu'ils n'auraient pas fait de détails. Moi, j'ai eu la chance de faire le SENEC, qui est devenu le régiment de sécurité présidentielle. Et la mentalité que nous avons appris au SENEC, on ne recule jamais.
La société civile, elle veut la lumière, rien que la lumière dans ce procès. Le général a sa part de responsabilité dans le coup d'État.
On peut dire dans tous les cas que dans ce putsch, si, même s'il n'est pas auteur, il est au moins complice. À l'époque, tout le monde sait que c'est Diendéré.
Mathias Tankwano, porte-parole du M21.
D'après Norbert Zongo, quand un homme dit de tuer, il faut avoir le courage de dire c'est moi qui dis de tuer. Il faut que Diendéré assume. S'il avait assumé, peut-être qu'on n'était plus là.
Le procès connaîtra bientôt son verdict. Hier, le général Gilbert Diendéré a réitéré ses compassions pour les personnes qui ont perdu la vie lors des événements de septembre 2015. Il s'est dit engagé à aider les autorités burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. Du fond de ma cellule, je suis disposé à apporter ma contribution pour la défense de ma patrie. Je ne suis pas un traître et je ne trahirai jamais mon pays, a dit le général. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cap maintenant sur le Gabon, où Libreville, la capitale, croule sous l'état d'immondices. La raison, la compagnie chargée du ramassage des ordures ménagères a interrompu ses opérations. Elle réclame de l'État le paiement d'une dette vieille de 2 ans. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Excédés de voir les poubelles s'entasser partout à Libreville, les riverains tentent de s'en débarrasser en y mettant le feu. Une méthode peu efficace, mais à l'impossible, nul n'est tenu car cela fait plus d'une semaine que les ordures polluent la vie des populations.
Est-ce que c'est normal un pays comme ça? Et on nous dit non, on est un pays émergent, on nous raconte les coléries, les tories. Et pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. C'est inadmissible.
On ne peut pas donner tort à la société à Verdac. Moi, personnellement, quand ils ont commencé, c'était carrément, le travail était nickel, quoi. Mais depuis un moment, c'est pas ce qui se passe. Si c'est par rapport au sous, l'État les doit, mais qu'ils remettent à la situation.
La société à Verdac, chargée de la collecte et du ramassage des ordures ménagères, a en effet interrompu ses activités depuis plusieurs jours. Elle réclame à l'État gabonais 24 milliards de francs CFA de prestations impayées. Nicolas Ashkar est directeur chargé du développement du groupe Averda.
Aujourd'hui, on a besoin d'un plan sur la dette, le remboursement de la dette, et un paiement immédiat pour pouvoir reprendre le travail. La trésorerie, elle est à zéro, l'Averda Gabon, et on a besoin de payer les salaires de 700 employés, rembourser les fournisseurs, la dette vis-à-vis des banques. On ne peut pas démarrer sans qu'on ait un paiement conséquent pour pouvoir repartir.
Les camions poubelles sont au garage et plus aucun éboueur dans la rue. Pour les autorités municipales partenaires de la société incriminée, son rendement n'est plus à la hauteur des attentes. Léandre Zuyé, maire de Libreville.
C'est vrai qu'Averda réclame une dette colossale à l'État, mais je dis qu'Averda n'a pas rempli son cahier de charges. Parce que le cahier de charges d'Averda disait que non seulement la collecte des ordures ménagères, le bassin versant et puis le curage des caniveaux. Alors, ils ne font que la collecte des ordures ménagères, les deux autres, ils ne le font pas. Mais ils sont payés à hauteur de entre 400 et 500 millions, ce qui n'est pas normal. Je crois savoir que c'est vrai qu'ils réclament la dette, mais ils n'ont pas rempli leurs obligations. Mais pour ce qui me concerne, que ce soit Verda ou Clean Africa, c'est des sociétés qui ne font pas leur travail. Et si ça ne dépendait que de moi, nous allons résilier le contrat.
La mesure de rétorsion d'Averda visant à contraindre l'État à payer sa dette aura-t-elle la chance d'aboutir? bien malin qui pourrait le dire. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Plus de 2 millions de musulmans commencent dès demain le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Souvent, ces pèlerins venus du monde entier sont confrontés à de nombreuses difficultés, comme marcher de longues distances sous des températures très élevées. Le pèlerinage, un des piliers de l'islam, est également une manne financière pour les Saoudiens. Mohamed Touré s'est entretenu avec le professeur Daouda Doumbia, enseignant à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Cette année, on attend, je crois que c'est un peu plus de 2 000 pèlerins qui sont attendus. Et en fait, demain, comme vous le dites, c'est pas le Hajj proprement dit demain, mais c'est déjà le démarrage des activités. Disons le démarrage du pèlerinage parce que c'est demain qu'il y a le grand mouvement de la Mecque vers Mina.
Pourquoi ce pèlerinage importe, selon
vous ? Le pèlerinage est très important, dans la mesure où ça constitue le 5e pilier de l'islam. Mais c'est une obligation. Mais quelle obligation ? Pour qui en a les moyens ? Quand on en a les moyens, ça devient une obligation pour le musulman. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens, pas du tout. Voilà, c'est pour compléter le 5e pilier de l'islam.
Voilà, quelques années, ils ont eu quelques ennuis, je vais dire des difficultés au lieu de pèlerinage. Et cette année, que compte faire le gouvernement saoudien pour éviter les mêmes incidents du passé?
Il faut le dire, chaque année, le gouvernement saoudien entreprend, disons, de larges réorganisations, des infrastructures surtout, à commencer par les rues et les allées, les retours, et aussi initier les pèlerinages. Je ne sais pas si ça se passe au Mali, mais dans certains pays, il y a même des délégations, disons, du royaume qui vont expliquer et pratiquement essayer, disons, d'initier les gens au va-et-vient, au mouvement dans la vallée de Mina. Parce que vous savez, une vallée d'à peu près, je ne sais pas, environ 10 000 à 20 000 km², s'il faut y concentrer 2 à 3 millions de personnes, ce n'est pas si facile.
Au terme économique et financier, 2 millions de personnes, de pèlerins, c'est beaucoup de dépenses. Et du coup, pour renflouer les caisses de l'État saoudien au plan de vue touristique, que pensez-vous?
Effectivement, une grande manne financière, un revenu, disons, pour non seulement le gouvernement saoudien, le pays, mais aussi une activité pour tous ceux qui résident ici, aussi bien les nationaux que les étrangers. Parce que chacun y va, disons, de son compte, des activités commerciales, de sport. Il y a toute une gamme d'activités, disons, en marge ou à l'intérieur même de la période du pèlerinage.
On écoutait le professeur Daouda Doumbia, enseignant dans la ville saoudienne de Jeddah. Together des Beatles et on va clore le monde aujourd'hui avec un peu de musique des Beatles. Donc des centaines de fans du groupe britannique se sont rassemblés aujourd'hui près des studios londoniens d'Abbey Road pour le 50e anniversaire de la photo du groupe illustrant son dernier album studio Abbey Road, l'une des pochettes les plus célèbres de l'histoire de la musique. La photo montre les quatre musiciens traversant un passage piéton devant les studios d'enregistrement d'Abbey Road. John Lennon ouvre la marche, suivi de Ringo Starr, Paul McCartney pieds nus et George Harrison. C'est donc le dernier album studio des Beatles, bien qu'il précède la sortie de Let It Be, enregistré avant, et il a été réalisé dans une atmosphère plus joyeuse. Y figurent les morceaux Something, Here Comes the Sun, Octopus's Garden et Come Together qu'on écoute en ce moment, ainsi que le fameux medley qui boucle l'album, un enchaînement de chansons parfois inachevées. Et voilà, comme Together the Beatles, parce qu'aujourd'hui donc il y a cet anniversaire à célébrer des fans venus du monde entier. Voilà, des fans qui croient que ce groupe a changé la musique pour toujours. Le groupe a chanté sur l'amour et la paix. Et voilà, point final.